Et c'est la revue de presse avec Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Pierre, bonjour Patricia.
Bonjour Frédéric.
Et bonjour à tous. La solidarité est une force. Cette phrase, c'est le slogan d'une mutuelle d'assurance, mais n'est-ce vraiment qu'un slogan? Non, une réalité, se lit-on en lisant l'histoire de Walid. Walid, arrivé du Maroc en 2014 avec un visa étudiant, il obtient son bac à 16 ans, enchaîne avec une classe préparatoire, puis 2 années à la fac, avant de se réorienter vers un BTS d'informatique au lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen. Il habite chez son oncle et sa tante, qui sont français. Mais mercredi matin, la police le contrôle à la gare Saint-Lazare à Paris. Il n'a pas sur lui sa carte d'étudiant et plus de titre de séjour. Ce dernier n'ayant pas encore été renouvelé parce que les services de Seine-Saint-Denis sont saturés. Il est alors envoyé au centre de rétention de Vincennes. Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il fait appel de la mesure et ses proches se mobilisent pour éviter son expulsion. Récit de Nana Didou sur le Bondy Blog. Ses copains se mobilisent, ses profs se mobilisent. Des mandrolles, des tracts, une cagnotte pour payer les frais d'avocat. Ils expliquent que Walid est le meilleur de sa promo et que souvent, eh bien, ils ne sont pas au courant des problèmes de leurs élèves parce qu'ils les taisent, les cachent, leurs problèmes. Il y a 2 ans, une lycéenne s'endormait constamment en cours. Ses profs ont découvert qu'elle était SDF. Jeudi, l'équipe enseignante a donc organisé un rassemblement pour alerter sur la situation du futur informaticien. Le tribunal administratif de Paris a rendu sa décision hier. Finalement, la mesure a été annulée et Walid libéré. Non, les profs ne savent pas toujours les difficultés de leurs élèves. Nouvelle illustration dans Le Monde ce samedi.
Oui, avec une interview de la présidente de l'université de Lyon 2.
L'université où étudiait le jeune homme qui s'est immolé par le feu il y a 8 jours devant les bâtiments du Crous. Expliquant son geste en évoquant ses difficultés financières parce qu'il triplait sa 2e année de licence. Il avait perdu à la fois sa bourse et sa chambre en CTU. Il est depuis entre la vie et la mort sur les réseaux sociaux. On a pu lire les pires choses à son sujet, que c'était un flemmard et que les aides qu'il recevait servaient surtout à financer ses activités syndicales. Mais Nathalie Dompier, la présidente de la fac, le présente autrement. Sur le plan des études, dit-elle, il venait en cours, il était présent. Et elle rappelle que le jeune homme était du reste très impliqué dans la vie de l'établissement, qu'il a toujours été dans une démarche d'échange et de dialogue constructif. Elle estime également qu'il y a une dimension politique indéniable dans son acte, un geste de désespoir qui appelle à ouvrir au plus vite des réflexions pour améliorer les conditions de vie et de travail des jeunes à l'université. Ses profs ne savaient rien de la précarité de ce jeune homme, mais d'après Nathalie Dompier, de nombreux indices montrent que celle-ci, la précarité chez les étudiants, progresse. Certains dorment dehors, dit-elle, et nous avons, dit-elle, des étudiants qui ont faim.
Frédéric Pommier, heureusement, par endroit, il reste la solidarité.
Avec l'initiative dont se fait l'écho, le Petit Bleu, ce matin, un frigo solidaire qui vient d'être installé dans le centre-ville d'Agen. La population peut désormais venir librement y déposer ou y prendre des denrées alimentaires. Moyen donc d'aider ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter à manger et moyen de lutter dans le même temps contre le gaspillage. C'est souvent la presse régionale qui nous offre ces histoires-là, du lien social et des personnes qui s'investissent pour les autres. Dans Ouest-France, ce matin, le portrait d'Élodie, énergique, dynamique, elle est animatrice en maison de retraite. Son objectif, maintenir la vie sociale des plus âgés, partager avec eux des histoires et des émotions. Une forte émotion d'ailleurs, c'est ce qu'ont ressenti quand ils se sont rencontrés, Michel et René. René, une octogénaire de 87 ans, résidente de l'EHPAD de la Chapelle Saint-Luc dans l'Aube. Michel, 78 ans, résident de la même structure, tous deux sont tombés amoureux et viennent de se fiancer. Coup de foudre à la maison de retraite. Se réjouissent ce matin, l'Est éclair.
Et il est également question d'un mariage dans le Parisien cette fois.
Celui de Christian et Nathalie qui convoleront en juste noces l'été prochain. Et c'est sur un rond-point que Christian a rencontré ses deux futurs témoins de mariage, Denis et Chantal. Sur un rond-point, oui, car tous les trois sont gilets jaunes, un noyau dur de copains s'est constitué les mois passants. Ils font des gueuletons le week-end chez les uns, chez les autres. En fait, dans cette mobilisation, ce qu'on a surtout gagné, Ce sont des amitiés, commente Denis Dujaune. Il y en a beaucoup sur les unes. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un mouvement. Des interrogations. Un an après, que reste-t-il des Gilets jaunes, se demande la Voix du Nord. Que reste-t-il des Gilets jaunes, se demande l'Union. Que reste-t-il des Gilets jaunes, se demande la presse de la Manche. Pour y répondre, les journaux ont donc interviewé les intéressés, ceux qui étaient là dans les premières manifestations. Colère toujours présente, amertume parfois, l'impression que le combat n'a pas rapporté ce qu'il aurait dû rapporter. Certains ont lâché l'affaire, d'autres restent mobilisés, défileront donc cet après-midi. Jaune pâle ou jaune pétard questionne la Nouvelle République des Pyrénées. Autrement dit, combien de gilets dans les rues aujourd'hui? Des coups d'éclat sont redoutés, prévient le Figaro. Si 12 mois après le déclenchement du mouvement, la mobilisation est en chute libre, note le quotidien, des irréductibles vont tenter des actions isolées. Et le gouvernement vit dans la hantise d'une nouvelle éruption, nous explique Le Monde sous ce titre. Macron sous pression. Un an après les Gilets jaunes, selon le journal, l'exécutif craint par-dessus tout une coalition des mécontentements. Le 5 décembre, journée de protestation contre la réforme des retraites, Brigitte a les pétoches, souffle un familier du couple Macron dans les colonnes du Parisien. Il rappelle que l'épouse du chef de l'État s'était vue comparée l'an dernier par certains à Marie-Antoinette. Et puis Le Monde nous offre le visage d'une actrice ce matin à sa une, celui d'Adèle Haenel, laquelle a témoigné la semaine dernière dans Mediapart, racontant les attouchements d'un cinéaste alors qu'elle n'avait que 12 ans. Le cinéma français et le choc, Adèle Haenel, titre de cette enquête sur le malaise qui a gagné le milieu. Même sujet en une de Libération, là aussi une grande photo de la comédienne, là aussi le mot choc, la profession sous le choc des récentes révélations d'Adèle Haenel et sous le choc de la nouvelle accusation de viol visant Roman Polanski. Et chacun s'interroge sur les mesures à prendre pour lutter contre les violences sexuelles dans le cinéma. Des petites mains témoignent dans Libération, des scripts, des maquilleuses, des costumières. Elles racontent les gestes déplacés de certains comédiens, les propositions parfois indécentes de certains techniciens. Elle raconte également pourquoi la plupart du temps elle se taise, la peur d'être blacklistée, de ne plus avoir de boulot sur les tournages. La solidarité n'est pas forcément le maître mot dans le milieu du cinéma.
C'était la revue de presse avec Frédéric Pommier.